C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Bras.
Bonjour. Creuser les entrailles de la terre, bétonner des kilomètres carrés de sol, détourner des fleuves ou enfouir des déchets, c'est ce que nous faisons partout depuis des siècles pour accompagner notre développement et nourrir la gloutonne croissance économique. Des autoroutes géantes, des aéroports capables d'accueillir des millions de passagers, ces grosses infrastructures sont nécessaires. Mais combien en faut-il à l'échelle d'un pays? Qui est légitime pour décider comment aménager un territoire? Et est-ce que l'intérêt général est réellement ce qui prime au moment du choix de construire ou non? Comment limiter les impacts? On en parle avec notre invité.
C'est pas du vent sur RFI.
Bonjour Anaïta Grisoni.
Bonjour.
Vous êtes sociologue et urbaniste et vous faites partie du collectif des plumes dans le goudron. Alors que je vous laisse nous présenter.
Alors en fait, c'est un collectif qui s'est monté autour d'un projet, vu que en 2017, si ma mémoire ne me joue pas des tours, on a décidé avec quelques collègues qui sont à la fois des gens qui font des sciences sociales, donc une géographe et moi-même, et des militants, d'écrire un ouvrage sur les grands projets inutiles à imposer, ou plutôt sur les mouvements qui s'y opposent, sachant que notre point de départ était de dire que ce ne sont pas des mouvements isolés, donc on ne parle pas de NIMBY ou de lutte locale, mais bien d'un mouvement général.
NIMBY, c'est not in my backyard, donc c'est pas ça. Dans ma cour.
Pas dans mon jardin, effectivement, en disant, donc en fait, l'idée c'était de dire que ces mouvements ne sont pas des mouvements locaux, mais bien un mouvement social décentralisé, multisitué, qui en fait rejoint des objectifs communs et qui s'oppose à un modèle socio-économique de développement qui est le nôtre.
Alors en France, on a eu les zones, et on a toujours d'ailleurs des zones à défendre, les fameuses ZAD, le lieu de crispation maximale ayant été Notre-Dame-des-Landes, là l'aéroport près de Nantes, dans l'ouest de la France. Mais il y a aussi, c'est vrai, des mobilisations, vous en parlez dans votre livre, en Guyane, mais il y en a aussi au Sénégal, en Turquie, un petit peu partout, des centaines de mobilisations qui repolitisent en fait notre rapport à l'environnement. Et c'est ça qui est intéressant, c'est une nouvelle forme de démocratie, d'exprimer son mécontentement citoyen.
Alors, effectivement, vous avez tout à fait raison de dire que ça repolitise notre rapport à l'environnement. C'est-à-dire qu'à côté d'une écologie qui pourrait passer pour une écologie de classe moyenne supérieure, où on se contente de petites mesures agissant sur la consommation des personnes, donc une écologie très individualisée, on a cette écologie des lieux. Alors je dis pas que ça n'existe que parce que les classes populaires entrent dans la lutte, mais en tout cas on a une écologie qui consiste à défendre le territoire avec un modèle qui serait plus proche de la nature, disons, c'est-à-dire un modèle qui s'oppose à la bétonisation, aux atteintes fortes portées à l'environnement et à ces grands projets d'infrastructure. Donc effectivement, c'est une autre forme d'écologie, on n'est pas obligé de les opposer. Souvent, elles se nourrissent l'une de l'autre, c'est-à-dire que les écolos qui font attention à leur mode de consommation sont aussi plutôt en faveur des ZAD. Néanmoins, elles se manifestent de façon très différente et elles font débat, voire controverse et conflit, avec des conflits qu'on peut avoir de façon très violente sur des espaces comme le site d'enfouissage des déchets nucléaires de Bure.
Alors en ce moment, le lieu qui cristallise la mobilisation, mais c'est plutôt contre l'écologie, ce sont les péages en France. Alors c'est une autre démarche, c'est défendre, se battre contre la hausse du pouvoir d'achat. Mais c'est vrai que c'est globalement sur les péages parce que c'est à la base contre une taxe sur les diesels. Donc c'est quoi, contre le modèle de la voiture? Comment vous analysez ça?
Alors en fait, je me suis pas penchée de façon assez spécifique pour pouvoir dire qui manifeste aujourd'hui contre la taxe sur la hausse du carburant. Néanmoins, je dirais pas que finalement c'est une opposition entre une écologie et l'autre. Ça peut l'être de la manière, si on regarde la manière dont c'est porté aujourd'hui, ça peut l'être si on regarde la manière dont le gouvernement la porte. Moi, je pense pas que fondamentalement il y ait une opposition entre le fait de s'insurger contre la hausse du prix, alors ici c'est le carburant, mais c'est en fait contre la perte du pouvoir d'achat, et de l'autre côté d'essayer de préserver le cadre de vie et les biens communs pour les générations futures. C'est posé comme ça, politiquement, c'est posé comme ça, c'est pas forcément comme ça que ça se pose intellectuellement, et c'est pas forcément comme ça qu'on a envie de le poser, notamment dans le collectif. On le voit très bien, puisque on est ici pour parler du cas de La Réunion. Moi, je pense sincèrement que les gilets jaunes à La Réunion, laissons de côté les débordements auxquels on peut souffrir ou non, à quoi ça a donné lieu, les gilets jaunes sont le revers de la même médaille que l'opposition à la nouvelle route du littoral, puisqu'en fait, il s'agit de critiquer un modèle de développement basé sur le tout pour la voiture. Et quand je dis développement, je suis gentille, parce que finalement, un développement qui exclut 40% de la population, on peut se demander si c'est vraiment un développement.
Oui, alors vous parlez de La Réunion, parce qu'on va écouter tout de suite un reportage, parce que à La Réunion, une énorme route qui est en train d'être construite, c'est la route du littoral, avec une préservation de l'environnement intégrée au chantier, c'est en tout cas ce que revendique la région de La Réunion, hein, dans l'océan Indien. Cette nouvelle route du littoral, c'est un projet pharaonique, puisqu'elle est en chantier depuis 2014, 12,5 km de route qui relie Saint-Denis à la Possession, posée sur un ensemble de digues et de viaducs en mer, une 2x3 voies, coût 1,6 milliard d'euros sur financement public. Les groupes Vinci et Bouygues sont en charge de la réalisation de cet ouvrage titanesque qui devrait se terminer en 2021. 150 mesures ont été prises pour minimiser les impacts sur l'environnement, mais sur l'île, il y a de nombreuses voix qui s'élèvent contre les nuisances dues aux travaux. Alice Milot est allée visiter ce chantier avec Yves Capon. Il est responsable de Biotope, une société qui apporte à la région Réunion une assistance environnementale au projet.
Moins dizaine, moi fais mon slow la brise, moi fais route facilité, pour mesurer à mon la vie. Du monde qu'on doit causer, tout qualité causer se poser, toute la langue dans tes oreilles, que t'appétit à moi va pas bon.
Alors donc là on quitte Saint-Denis, qui est donc la capitale administrative de l'île de La Réunion, c'est ça ?
C'est ça, le chef-lieu. Hein.
Et on va emprunter donc la route du littoral.
C'est ça, donc la route actuelle donc, qui relie le chef-lieu qui est Saint-Denis à la Possession et le port, sachant que cet axe c'est un peu l'axe vital de La Réunion. Ça permet en l'occurrence de relier l'est de La Réunion et l'ouest de La Réunion. Sachant que dans l'ouest il y a notamment le port par lequel arrive quasiment l'ensemble des marchandises à La Réunion. Et de l'autre côté, côté nord et est, on a notamment donc le chef-lieu où on est actuellement, qui est Saint-Denis, et également l'aéroport. Donc évidemment, on imagine bien la nécessité de cette route qui permet de relier du coup, je dirais, des pôles de vie de La Réunion.
Beaucoup de circulation, hein ?
Beaucoup de circulation, c'est... C'est effectivement, comme je vous l'ai dit, il y a à peu près entre 60 000 et 80 000 véhicules par jour qui passent sur cette route. Donc là, on rentre sur la route du littoral.
Alors, comme elle porte bien son nom, à droite, on a la mer.
Tout à fait.
Et à gauche, on a donc ces falaises qui sont absolument vertigineuses et très verticales et qui sont la source du problème.
Tout à fait. On a deux types d'aléas liés à cette route, qui est d'une part l'aléa géologique, avec des risques de chute de blocs, voire des éboulements massifs. Hein. Le dernier gros éboulement massif qu'il y a eu sur la route du littoral, ça s'est passé en 2006. Il y a eu 2 à 3 victimes, il y aurait pu en avoir plus si c'était arrivé, c'est arrivé vers 4-5 heures du matin. Si c'était arrivé vers 6-7 heures du matin dans le pic de bouchon, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent de l'ouest et qui viennent travailler sur Saint-Denis le matin, ça aurait été certainement une catastrophe humaine encore plus importante. Et il y a à peu près eu un gros éboulis tous les 20 ans. Il y en a eu un en 1960, un en 1980 et le dernier en 2006. Et par contre, régulièrement, tous les ans, hein, il y a des chutes de blocs, donc qui n'atteignent pas forcément toujours la route, mais ça arrive assez régulièrement que les blocs atteignent la route, donc il y a un véritable danger vis-à-vis de cet aléa géologique.
On voit là, depuis la route, donc, il y a des filets, il y a des murs de protection, il y a des grillages également qui ont pour objectif de retenir en fait les éboulis.
Tout à fait. Alors ça permet effectivement de sécuriser la route, mais je dirais de la sécuriser partiellement. Ça permet notamment de sécuriser vis-à-vis des chutes de blocs, mais certainement pas vis-à-vis d'un éboulement massif qui peut faire plusieurs milliers de mètres cubes. Donc ça, c'est plutôt pour l'aspect falaise. Et après, bah, comme sur la droite, sur notre droite, en allant vers la Possession, il y a la mer. Donc là, aujourd'hui, on est sur une journée plutôt calme au niveau de la houle, mais on a des épisodes de houle qui peuvent être extrêmement forts, et notamment en période cyclonique, et notamment lors de cyclones, où la houle peut submerger la route. Et dans des cas extrêmes, on a des fermetures totales en fait, de la route. Donc il y a une petite route qui passe par la montagne, qui est interdite aux poids lourds, donc ça limite aussi Et donc on a cet impact économique qui est extrêmement important.
Et alors, c'est la raison pour laquelle la région s'est engagée donc, dans la construction d'une nouvelle route du littoral qui s'appelle NRL. Et donc c'est celle qu'on voit là donc, se dessiner. Donc en fait, il y a l'ancienne route, enfin l'actuelle route sur laquelle on est. Et donc là, à 100 mètres du bord, on voit le chantier de la nouvelle route du littoral.
Oui, tout à fait. Donc là, on longe la partie viaduc. Donc il y a des parties en viaduc et des parties en digue.
Alors c'est très impressionnant parce que en fait donc c'est une route qui est sur pilotis, hein, donc qui est au-dessus de la mer, en fait à peu près à 6-7 mètres au-dessus de la mer.
C'est ça, à minima, au moins 6-7 mètres, voire beaucoup plus à certains endroits. Là on passe à côté donc de la zourite là, qui est en train de poser les piles.
Donc c'est une immense grue on va dire, pour dire simple.
Hein. Ouais, c'est une immense barge du coup hein, qui est sur pied. Donc là en plus elle est en train de poser la pile, donc c'est assez intéressant de pouvoir constater ça. Et donc cette barge, elle fait à peu près la taille d'un terrain de foot, à peu près 100 mètres de long sur 50 mètres de large.
Donc là, on la voit qui est en train de déposer en mer un pilier. Alors il faut bien imaginer que c'est des piliers absolument énormes, d'un diamètre très important et très haut.
C'est ça, important, très haut et surtout très lourd aussi, pour garantir la stabilité en fait, du viaduc une fois qu'il sera construit. Donc c'est déjà impressionnant, mais c'est quelque part c'est un tiers d'une future pile.
Je m'appelle Jean-Pierre Marchaud, je suis animateur du collectif qui s'appelle Collectif Non à la Nouvelle Route du Littoral. Je suis aussi élu à Saint-Denis, à la mairie de Saint-Denis, et je suis le secrétaire régional d'Europe Écologie Les Réunions. On se trouve ici dans un petit morceau d'un lieu dit de la commune de Saint-Denis, le seul endroit habité qui est sur la route du littoral, en pied de falaise, à part que là vous le voyez. Donc on appelle ça la Grande Chaloupe. Pourquoi ? Parce que c'est ici qu'ont débarqué après 1848, c'est-à-dire après l'abolition de l'esclavage, qu'ont débarqué ce qu'on appelle les engagés indiens, que les grands propriétaires ont fait venir pour compenser le fait que les esclaves libérés ne voulaient plus travailler sur les terres, la plupart. Et donc on a fait venir à des conditions extrêmement dures des engagés indiens. À peu près 100 000 personnes sont venues, des hommes, des femmes qui ont fait des enfants. Et on peut dire qu'une grande, grande partie aujourd'hui de la population réunionnaise, elle est issue de cette immigration indienne. Et donc en fait, ici, comme vous voyez, nous sommes face à l'océan, d'accord ? Face à l'océan, et bien à partir des années 1850, il y avait un petit ponton et arrivaient les bateaux qui débarquaient ces engagés indiens. Et comme vous le voyez aujourd'hui, et bien cette vision que nous avons de l'océan sur ce lieu chargé d'histoire, elle est aujourd'hui, à mon avis, et c'est là que ça me rend moi triste, à la fois triste et en colère, elle est aujourd'hui absolument barrée par cette espèce de muraille de béton. Vous voyez le fameux chantier de la nouvelle route du littoral avec un échangeur qu'on a construit ici, en sachant qu'on va se rajouter, on ne le voit pas encore parce qu'il n'est pas encore construit, il y aura un mur anti-bruit qui fait que là où les habitants de la Grande Chaloupe voyaient la mer, ne la verront plus. Elles ont devant elles ce mur de béton qui marque finalement la fin d'une histoire, et surtout pour moi, c'est ce que je regrette, on peut dire un irrespect total par rapport à un lieu chargé de mémoire. Voilà, Baudelaire est venu à La Réunion au XIXe siècle. Il a écrit un poème dont le premier quatrain, ce poème s'appelle « La vie antérieure », le premier quatrain, c'est une description de la falaise volcanique, puisqu'il parle des piliers de basalte. Donc même Baudelaire a été frappé, moi-même, quand je suis arrivé il y a une trentaine d'années, sans me comparer à Baudelaire évidemment, j'étais frappé par la beauté majestueuse de cette falaise de 200 mètres de haut qui tombe dans l'océan. Et donc voilà pourquoi, pour moi, l'aspect le plus flagrant, c'est cette défiguration du paysage. Parce que si on prend après d'autres aspects environnementaux, on les voit pas forcément, parce qu'il y a un impact sous l'eau pour les mammifères marins, etc. Mais l'impact le plus visuel, c'est actuellement, effectivement, cette muraille de béton qui borde la falaise, cette fameuse falaise de La Réunion, et notamment ce lieu chargé d'histoire.
Donc là, on est en train de passer sous la route, sous le viaduc, et on est donc au bord de l'eau.
Voilà, donc là on est au bord de l'eau. L'un des impacts les plus importants de ce chantier concerne des espèces protégées. Et on a accordé à Bouygues-Avincy des dérogations pour construire le chantier, qui porte atteinte à 20 espèces de mammifères marins, dont la baleine à bosse, dont le dauphin, le grand dauphin d'eau océanique. Et donc, avec ces dérogations, le chantier peut se permettre d'atteindre, de détruire les centres de reproduction, les lieux de reproduction de ces espèces. Donc ça, déjà, c'est un impact. Et on sait qu'il y a des mesures compensatoires en termes de bruit, etc., pour éviter de gêner certains mammifères marins. Mais ça porte déjà atteinte. Et demain, si on fait cette fameuse digue qui serait derrière moi, cette digue dont j'appelle moi une digue pharaonique, avec plusieurs millions de tonnes de matériaux, ça consiste à quoi ? Ça consiste à pousser dans la mer des millions de tonnes de roches massives. Et là, effectivement, on porte atteinte directement à la vie. Parce qu'il y a beaucoup, on ne le dirait pas, mais sous l'eau, là, il y a beaucoup de vie marine. Il y a donc tout chantier, de toute façon, a un impact environnemental. Donc il ne s'agit pas d'être non plus un ayatollah de l'écologie. Sinon, on ne ferait jamais rien. On est bien d'accord là-dessus. D'accord ? Mais ce qu'il faut mesurer, c'est est-ce que l'intérêt général est tel qu'il peut permettre d'avoir un certain impact sur l'environnement. Moi, je dis, cette super autoroute sur le n'apporte rien à l'intérêt général, si ce n'est au lobby automobile. Ça, c'est clair.
Là, on rentre dans une partie du chantier. Hein. Donc, on a le droit parce qu'on a, on est équipé pour. Hein.
Tout à fait. On a l'ensemble des équipements de sécurité, donc, c'est-à-dire le gilet, les chaussures de sécurité et le casque. Donc, moi, je suis donc Yves Capon, donc de la société Biotop. Nous, notre rôle sur le chantier, c'est une mission de coordination environnementale, donc d'assistance environnementale du projet. Donc on travaille depuis 2012 pour la région, donc on a travaillé sur la partie études et donc maintenant on suit la bonne tenue du chantier vis-à-vis des questions environnementales. Donc là on est sur le grand viaduc, donc le viaduc de 5400 mètres hein, qui relie donc Saint-Denis à la Grande Chaloupe, donc qui est le lieu dit qu'on trouve au milieu de la route, hein, entre Saint-Denis et la Possession. Et donc là l'avancement est à peu près un peu plus de 50% sur le tablier.
Donc le tablier, c'est là où
c'est
on
là
roule.
Où on se trouve. C'est là où on roulera à l'avenir. Et donc ce tablier, il tient sur un certain nombre de piles. Donc il y a 48 piles en tout qui sont implantées dans la mer.
Il y a plus de 800 personnes qui travaillent sur le chantier. On voit effectivement des ouvriers, des ingénieurs autour de nous là, qui s'activent. combinaison orange, casque vissé sur la tête. Et alors, comme tout chantier qui se respecte ici, forcément, il y a du bruit, il y a des désagréments, il y a des dégâts. Et alors, donc vous travaillez pas sur le chantier à proprement parler, et vous êtes le gendarme environnement, on va dire, du chantier. Est-ce que je résume ?
Alors, pas tout à fait. Alors, on est un bureau d'études environnement avec une spécialité qui est la biodiversité, qui est le cœur de métier de Biotope. Et donc, nous, on a été missionné par la région Réunion, donc qui est le maître d'ouvrage, qui est le porteur du projet de nouvelle route littorale, pour l'assister sur les questions environnementales, donc pour garantir en fait le moindre impact du chantier sur l'environnement. Donc on est un peu le garant en fait de la bonne gestion environnementale du chantier.
Et alors donc justement, quels sont les impacts que vous avez pu évaluer de ce chantier titanesque sur l'environnement, qui en plus est un environnement exceptionnel. Là on est entre la montagne et la mer, c'est un endroit très beau dans lequel vit tout un écosystème.
Tout à fait. Alors la Réunion, c'est un petit caillou au milieu d'un vaste océan. L'un des enjeux environnementaux qu'on a sur cette zone, c'est notamment la présence de mammifères marins, de cétacés, qui sont d'une part une espèce très emblématique pour la Réunion, qui est la baleine à bosse, donc qui est présente uniquement en hiver austral, c'est-à-dire entre là où les premières commencent à arriver, elles sont sur les eaux réunionnaises entre juin et octobre, et le reste du temps elles sont en Antarctique. Vis-à-vis des baleines, hein, on est vraiment sur un lieu un peu stratégique dans leur cycle de vie, parce qu'elles viennent se reproduire là, elles viennent mettre bas, elles viennent élever leurs jeunes. Donc c'est vraiment une phase cruciale de leur cycle de vie.
Vous en avez déjà vu, vous ?
Ah, très régulièrement, on en voit même...
Oui. Là, depuis le chantier ?
Ah oui, on en voit très régulièrement, ouais, tout à fait. Donc à tel point même qu'il y a certaines journées de chantier qui ont dû être annulées en 2017, parce qu'il y avait des baleines extrêmement proches et qu'on n'a pas voulu les impacter. Donc pour ne pas les déranger... Pour ne pas les impacter, il y a des journées de travaux qui n'ont pas démarré l'an dernier. Enfin, certaines opérations, en tout cas dans l'eau, qui n'ont pas démarré l'an dernier.
Quitte à perdre de l'argent.
Quitte à perdre de l'argent, après, c'est ça. Mais le but, c'est qu'il y ait de toute façon un chantier qui soit le plus exemplaire possible sur l'environnement. Donc cette question des mammifères marins, elle est fondamentale. L'enjeu environnemental, il est aussi important que l'enjeu financier, en tout cas, de notre point de vue. Hein, mais je pense que c'est partagé notamment par la région, qui veut que ce soit... qui nous a donné en tout cas le mandat de réussir un chantier exemplaire. Donc on essaye d'y veiller. On a parlé des baleines, mais il y a aussi les dauphins. Il y a notamment un petit dauphin qui s'appelle le dauphin de l'Indo-Pacifique, qui vit, comme son nom l'indique, dans l'océan Indien et dans l'océan Pacifique. Mais il y a une petite population sédentaire à la Réunion d'une centaine, 100, 200 individus. Et donc il y a une attention toute particulière, parce que c'est une espèce extrêmement côtière, qui vit sur les 2-3 km de mer autour de la Réunion. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les cétacés en général, ils utilisent les ultrasons pour se déplacer, pour se reproduire, pour se reconnaître entre individus, etc.
Pour communiquer.
Pour communiquer, tout simplement. Et donc c'est un organe vital pour eux, l'oreille. Et donc le risque en fait de lier au chantier, c'est qu'il y ait trop de bruit et qu'on vienne affecter en fait l'oreille interne des individus, et donc derrière d'avoir un impact sur leur système de communication. Et donc directement sur leur survie, voire sur leur cycle de vie en général, qui pourrait arriver jusqu'à la mort d'individus. Et donc il y a eu des adaptations, des modalités de travaux qui ont été induites depuis le début du chantier, notamment sur la partie du viaduc où on est. Initialement, donc sur les 48 piles qui constituent le viaduc, il y avait 24 piles qui étaient prévues en fondation profonde, donc c'est-à-dire avec du battage de pieux pour vraiment solidifier la pose de ces piles, et donc avec un... une sorte de gros marteau en fait qui vient taper en fait des pieux pour venir ensuite ancrer la pile. Donc on avait imaginé un bruit pendant 5 ans lié à la construction de ces piles en fondation profonde, avec un bruit extrêmement important et donc un dérangement massif des mammifères marins, voire des impacts physiologiques sur les individus. Et en fait l'entreprise a travaillé à notre technique qui a été définie justement pour réduire ce bruit introduit dans l'eau, qui est les systèmes de fondation superficielle. Donc on vient poser la pile dans un trou qui a préalablement été creusé, donc qui fait beaucoup, évidemment beaucoup moins de bruit, hein. C'est un système de pelle qui vient enlever le sable, et donc on vient poser la pile qui est extrêmement lourde ensuite dessus, donc il y a beaucoup moins de bruit qui est introduit dans l'eau par rapport à ce qu'on avait imaginé initialement. Et donc comme je disais tout à l'heure, régulièrement on voit des dauphins qui sont au bord du chantier, on voit des baleines également au bord du chantier. Ce qui est certain, c'est que le dérangement n'est pas tel qu'ils ne se sentent plus forcément chez eux ici et qu'ils auraient quitté la zone. Salut.
Tu connais ton odeur, la fumée, la poussou, la va moi jusqu'à dans mon côté au dé. Tu connais ton odeur, la fumée, la poussou, la va moi jusqu'à dans mon côté. Ce matin, moi la partie passe dans le coin là-bas, elle avait tant de années. Tout de suite, moi la machine a fait quand le vent l'a levé. Tu connais ton odeur, la fumée, la poussou, la va moi jusqu'à dans mon côté au dé. Tu connais ton odeur, la fumée, la poussou, la va moi jusqu'à dans mon côté.
vous êtes en train de faire là sur le chantier?
Alors là, ce qu'on est en train de faire, on est en train de réaliser le clavage de deux fléaux. Donc là, on vient de réaliser la construction du fléau numéro 23.
Donc la pile 23 en fait,
c'est
le pilier en fait qui soutient la route.
Voilà, tout à fait, le pilier 23 avec la composition des voussoirs, donc c'est un ensemble de fléaux.
Vous, voilà, vous êtes chef de chantier, vous avez une cadence à tenir pour boucler aussi ce chantier en temps et en heure. Hein. Chaque jour coûte de l'argent. Est-ce que vous, à votre échelle, les ingénieurs, les ouvriers qui travaillent ici quotidiennement, est-ce que vous vous sentez concerné par cette question des baleines et des oiseaux, du corail, ou est-ce que ça vous paraît un petit peu une perte de temps ou anecdotique ?
Il faut préserver les animaux, comme pour les générations futures, si tout le monde s'en foutait, on va dire. Demain, les baleines ou autres, il y aurait plus ces espèces-là. Donc, pour nous, il faut quand même, l'environnement doit faire partie maintenant intégrante de chaque chantier qu'on doit réaliser.
Tu connais ton odeur, la fumée, la poussière lève à moi jusqu'à dans mon gosier. Oh, tu connais ton odeur, la fumée, la poussière lève à moi jusqu'à dans mon gosier.
Didier Robert, président du conseil régional de la Réunion. Sur la nouvelle route du littoral, donc il y a effectivement plus de 80 millions d'euros aujourd'hui, c'est-à-dire plus de 5% du programme global d'investissement qui est consacré donc à la préservation, la vigilance, préservation et restitution en l'état, donc dans les meilleures conditions possibles une fois que le chantier sera terminé. Donc il y a plus de 150 mesures qui ont été élaborées, qui ont été posées avec des acteurs locaux, donc des acteurs du monde associatif.
Ça fait prendre du retard sur le chantier, puis ça fait perdre de l'argent aussi. Est-ce que vous, votre engagement, il était jusque-là?
Mais c'est justement ça qui est magique. C'est un chantier d'importance, et justement parce qu'il est d'importance, je veux qu'il soit exemplaire. Je veux qu'il soit exemplaire sur les différents points que nous avons évoqués, et en particulier sur la dimension environnementale. Donc que cela coûte un peu plus, que cela nous décale quelques programmes, donc dans le délai d'exécution du chantier, je le prends et nous le prenons parfaitement en considération. Donc, il ne s'agit pas de faire vite, il ne s'agit pas de réaliser de manière précipitée, il s'agit de faire du mieux possible avec les contraintes qui sont posées aujourd'hui. Et donc s'il y a effectivement la découverte de l'arrivée de quelques baleines à proximité du chantier, évidemment nous arrêtons tout.
Évidemment, c'est mieux que rien d'avoir ces mesures qui permettent d'atténuer les impacts. Ça ne les supprime pas, ça les atténue. Donc ça veut dire qu'il y aura bien destruction de lieux de reproduction, il y aura bien destruction d'individus, mais pas suffisamment, d'après finalement l'État et les autorités environnementales publiques, pour dire qu'effectivement, on met en péril ces espèces menacées.
Et donc vous ne croyez pas à toutes les mesures qui ont été mises en place? Vous n'y croyez pas?
Je pense qu'elles permettent heureusement d'atténuer, mais je pense que, comme vous dites, c'est un peu de la fumage, de la poudre aux yeux. Ça ne permet pas, effectivement, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'impact. Quand j'entends dire que c'est une route écologiste, mon sang bondit, quoi. Il ne faut pas exagérer, on ne peut pas dire ça. Le grand problème, c'est qu'à La Réunion, on a fait un choix dans les années 60 de basculer dans ce qu'on appelle le tout automobile. Et ce fameux chantier que l'on vient d'évoquer, normalement, il n'aurait pas dû finalement naître si on avait pu construire le projet qui était porté à l'époque par Paul Vergès du fameux tram-train. L'idée, c'était de relancer un train à La Réunion pour pouvoir diminuer l'emprise de l'automobile et permettre d'offrir une alternative aux Réunionnais, qui aujourd'hui n'ont pas d'alternative. Ainsi, ils veulent se déplacer, le bus marchera pas très bien, il faut bien le reconnaître, ils sont obligés de prendre leur voiture. Un tiers des Réunionnais n'ont pas d'automobile, 35% environ. Pourquoi? Parce que effectivement, à La Réunion, 40% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Donc le bus, ici, et associé à l'image de la misère. Et voilà pourquoi le défi que l'on a, si on veut construire un transport en commun, c'est de restaurer l'image d'un transport en commun moderne, où il y aurait de la mixité sociale. Donc c'est le grand défi que nous avons pour les années à venir. Mais, gros point d'interrogation, quand est-ce qu'on pourra le faire, avec quel financement, dans la mesure où, pour l'instant, les financements vont vers l'achèvement de ce chantier.
Maintenant, il est trop tard pour revenir en arrière. Ouais. Hein, le chantier est tellement avancé que ce serait une hérésie que d'abandonner le projet. Donc, il faut se faire à cette nouvelle route du littoral. Mais vous auriez voulu quoi comme projet à la place?
Alors, avant de commettre cette erreur, je pense qu'il fallait choisir de faire un tunnel. Il fallait faire en fait un double tunnel, un tunnel dédié au transport en commun ferroviaire et un autre tunnel juste à côté à la circulation par la route, les camions, les voitures, etc. Pourquoi? Ça mettait à l'abri, effectivement, des intempéries, mais on pouvait faire des tunnels, puisqu'on a fait des tunnels pour le train il y a un siècle et demi, on peut bien faire des tunnels pour la voiture. Maintenant, comme vous avez raison de le dire, aujourd'hui, on ne va pas détruire le viaduc, il est en train de se faire, il sera peut-être fini dans un an et demi, soit une autre solution qui est préconisée par mes amis de l'association Transport Réunion, de reprendre l'ancienne route et en protégeant les passages les plus dangereux par des auvents de béton, un peu comme dans les Alpes, ce qui fait dans les Alpes, je ne vois pas pourquoi on ne ferait pas ici, des sortes d'auvents en béton qui protégeraient le passage des automobiles. Ça serait moins cher qu'un viaduc, moins cher évidemment que la digue, et ça permettrait effectivement de finir ce chantier qu'aujourd'hui on ne peut pas arrêter évidemment, puisqu'on voit combien il est avancé.
Alors pour le moment, la région n'a pas obtenu d'autorisation pour exploiter des carrières de roche pour construire la route. Comment ils ont fait jusqu'à maintenant pour aboutir à ce point du chantier ?
L'État a convenu avec les transporteurs et les agriculteurs ce qu'on appelle le protocole andin. On appelle andin à La Réunion ici, les andins historiques, les énormes pierres d'origine volcanique qu'on trouve sur les terres agricoles. L'objectif au départ, c'est de permettre aux agriculteurs de récupérer de la surface agricole parce que ces pierres immenses, les agriculteurs étaient obligés de les contourner pour cultiver la canne et donc elles occupaient une certaine surface. Donc l'idée des pouvoirs publics, c'est de dire faisons une pierre de coup. D'un côté, on récupère la surface agricole, on donne un peu d'argent aux agriculteurs qui vont vendre leurs andins, et puis les transporteurs vont récupérer ces andins et les amener au chantier. Le problème, c'est que depuis 3 ans que ce protocole a été édifié, 3 millions de tonnes d'andins ont été prélevées sur les terres agricoles réunionnaises. Or, il faut savoir que même si ces andins sont gênants, certains en tout cas sont gênants, les agriculteurs, ils ont aussi une fonction. Ils protègent les terres, ils empêchent le glissement lorsqu'il y a des grandes pluies, des cyclones, etc. Donc en prélevant 3 millions de tonnes, évidemment, on fragilise les sols agricoles. Et on l'a vu aux derniers épisodes fluvieux avec deux petits cyclones qui ont eu comme conséquence...
Cet hiver,
voilà, en janvier dernier, 2018, et en avril 2018, des petits cyclones. Et beaucoup de Réunionnais étaient surpris des dégâts causés par ces cyclones. Il y a eu beaucoup de glissements de terrain, des routes détruites, des cours de maisons envahis par la boue. Le lagon de Saint-Leu, qui est l'un des plus beaux de la Réunion, qui était recouvert d'eau boueuse descendant des... Voilà, pourquoi ? Parce que quand vous enlevez ces pierres des terres agricoles, eh bien, dès qu'il pleut énormément, les terres partent à la mer, glissent vers la mer. Mais aujourd'hui, on arrive à la fin du processus. Pourquoi ? Parce que les andins sont en voie d'épuisement. Donc, il y a une nécessité aujourd'hui stratégique pour Bouygues-Vincy et pour la région, d'ouvrir ces fameuses carrières de roches massives parce qu'il n'y a plus de matériaux pour faire les digues. Et si demain la région veut finir sa route, eh bien il faut qu'elle trouve ces roches massives. Donc on va entrer dans un processus d'ouverture de carrières de roches massives qui jusqu'ici n'existait pas à la Réunion, puisque jusqu'ici on se contentait de prendre des pierres dans les vies des rivières, ce qu'on appelle des carrières alluvionnaires. Voilà.
Dans la ville, derrière bloc la poussière, la même dans la misère. À cause, ma cause les amers, le grain est doux, la racine est plate. À cause, ma cause les amers, le grain est doux, la racine est plate. Nana trois lavandières, dans le fond de la rivière, il a jusqu'à fait noir, chez Zot n'a point la voir. Avec coton maïs, Zot laisse la bière blanchie. Avec savon Marseille, l'Iba brille comme soleil. À cause, ma gorge est amère, le bras est doux, la racine est plate. À cause, ma gorge est amère, le bras est doux, la racine est plate.
Il y a des procédures administratives qui sont en cours. Ces procédures administratives devraient nous amener naturellement à ce qu'il y ait donc un début d'exploitation d'une carrière donc en premier semestre 2019. Donc c'est ce calendrier-là que nous avons pris en considération. Cela fait 4-5 ans maintenant que ces procédures ont été engagées, qu'il y a des recours qui ont été déposés, que les tribunaux, tribunaux administratifs, que la cour administrative d'appel de Bordeaux ont eu à se prononcer. Donc tout cela est extrêmement encadré. Donc il y a une vraie vigilance juridique sur la manière d'amener le chantier. Et donc nous sommes aujourd'hui, de mon point de vue, donc en fin de procédure administrative pour pouvoir terminer les 2,7 kilomètres sur un total de 12 kilomètres 7, donc 2,7 kilomètres qui restent à réaliser en digue et donc avec l'approvisionnement des matériaux dont vous faites référence. Comment est-ce que l'on peut imaginer que sur un territoire comme le nôtre, où il y a un disponible matériau important, comment est-ce que l'on peut imaginer demain, par exemple, importer des matériaux de l'extérieur? Ceux qui aujourd'hui pensent écologie, pensent environnement, est-ce qu'ils sont capables d'expliquer que lorsque l'on exploite une carrière, par exemple à Madagascar, quelle est la réglementation sur les carrières? Quelle est la réglementation sur le travail des enfants? Je préfère l'ouverture d'une carrière à La Réunion plutôt qu'une l'ouverture d'une carrière à Madagascar. Parce que si l'on a cette fibre écologique, si l'on a ce sentiment de devoir et d'avoir une responsabilité en matière environnementale, ça ne peut pas s'arrêter au littoral réunionnais. La question écologique vaut pour l'ensemble de la planète. Et donc si l'on veut véritablement agir en responsabilité de ce point de vue, il vaut mieux être dans un pays qui est un pays de droit. Il y a aujourd'hui suffisamment de matériaux disponibles à La Réunion, non seulement pour pouvoir mener à bien ce chantier de la NRL, mais en même temps de se projeter aussi dans les années futures pour se dire comment est-ce que je construis finalement les logements? Comment est-ce que nous construisons les logements? Donc après, on peut, dans le café du commerce, on peut toujours s'amuser à dire qu'on aurait pu faire un tunnel, chercher des voies souterraines, passer par la montagne, faire appel demain à des spécialistes des montgolfières pour voir s'il n'était pas plus intéressant d'avoir un pont suspendu. Enfin, on peut tout imaginer. À un moment, il faut faire. À un moment, il faut agir. J'ai été élu pour agir. J'ai été élu pour prendre des décisions. Nous avons pris cette décision, qui est encore une fois une décision d'équilibre. Je souhaite vraiment aujourd'hui que nous puissions aller relativement vite, terminer ce chantier, parce que je n'oublie jamais qu'il y a chaque jour 60 000 Réunionnais qui l'empruntent. Et je ne voudrais pas que nous ayons demain à porter une responsabilité quelconque, individuelle, collective, sur le fait que un éboulis plus important qu'un autre aura causé des dégâts plus importants que d'autres.
Arrête, tu fais ton maillot, petit Pierre, tu vois pas toutes les misères. Pas besoin, tu fais trop ton connaisseur, plutôt un peu la prière. Prie un peu, bon Dieu, petit Pierre, pas besoin, fais ton gros cœur. Pour pas tourner dans toutes affaires, tu vas faire ton malheur.
Un reportage d'Alice Milot réalisé par François Porcheron. Anaïta Grisoni, je rappelle que vous êtes sociologue et urbaniste. Comment est-ce que vous réagissez à ce reportage? On va rentrer un petit peu dans le détail, mais votre réaction globale?
Alors, vous avez dit que c'était une énorme route, effectivement, si elle n'est pas énorme en termes de kilométrage, effectivement, elle est énorme d'une part par son prix, parce que 1,6 milliard d'euros, c'était la prévision initiale. Là, on est plutôt vers 2,5 milliards d'euros, donc c'est en train de doubler, comme souvent ce type de grand projet.
Les opposants disent, pas forcément dans le reportage, mais dans de nombreux articles qu'on peut lire par ailleurs, que ça serait la route de France la plus chère au kilomètre.
Ça serait la route la plus chère au kilomètre du monde, même si on écoute les militants. Elle est énorme aussi par son emprise, tant son emprise paysagère, puisqu'il s'agit quand même d'une route sur pilotis tout au long du littoral de La Réunion, qui a quand même comme principal attrait son littoral. Donc finalement, il y a cette emprise énorme qui vient heurter l'esthétique du paysage. Mais finalement, si c'était que ça, ça serait pas très important. Il y a la question du bruit. Donc c'est en termes de pollution sonore que se pose l'énormité du projet et des conséquences sur l'environnement. Donc effectivement, on cite des conséquences qui peuvent paraître purement écologistes, purement environnementalistes, comme l'extinction, en fait, la participation à l'extinction de certaines espèces, comme la baleine à bosse. Mais les conséquences sur l'environnement sont aussi en termes plus structurels, puisqu'il s'agit de mettre en péril les terrains de La Réunion, donc d'occasionner possiblement dans le futur des glissements de terrain qui, avec les risques de cyclones, créeraient des conditions environnementales assez désastreuses. Donc ça, c'est ma première réaction, c'est qu'effectivement, il s'agit d'environnement, mais il ne s'agit pas d'un environnement secondaire, superficiel, anecdotique. C'est vraiment, on parle des conditions de vie des personnes.
Oui, alors c'est le choix de la route, hein, le choix des voitures individuelles, le financement est mis là-dessus, parce qu'apparemment, il y a quand même beaucoup de personnes qui empruntent la route à La Réunion. En même temps, tout le monde n'a pas les moyens de se payer une voiture sur cette île.
Alors effectivement, elles empruntent la route parce qu'elles n'ont pas le choix. C'est-à-dire que dans les années 60, Paul Vergès avait proposé un modèle qui serait basé sur le transport public, donc avec le percement d'un tunnel pour favoriser le train à La Réunion, avec l'idée d'une plus grande accessibilité de la majeure partie de la population à cet équipement public. C'est le modèle de tout voiture qui a été choisi. Alors il est effectivement contestable du point de vue de toutes les prétentions qu'on peut avoir quant au dérèglement climatique, mais il est aussi contestable du point de vue socio-économique, puisque comme on le voit, 40% des Réunionnais vivent en dessous du seuil de pauvreté, le chômage touche la moitié des jeunes de moins de 25 ans, et en fait, souvent ce modèle du tout voiture, on pourrait croire qu'il est généralisé, donc vous dites beaucoup de personnes empruntent la route, mais apparemment pas tout le monde, puisque un tiers des Réunionnais n'a pas accès à ce moyen de transport.
N'ont pas les moyens de s'acheter une voiture.
N'ont pas les moyens de s'acheter une voiture, et comme on le voit aujourd'hui, de payer du carburant et surtout pas en contexte de hausse des prix du carburant.
Mais alors, est-ce que c'est un projet, comme diraient mes ados, sauf 20e siècle ? Parce que finalement, cet argent, il aurait pu être mis justement pour mettre en place des transports en commun, pour fluidifier.
Alors effectivement, je ne sais pas s'il est 20e siècle. Enfin, moi, je pencherais plutôt pour la fin de la Seconde Guerre mondiale, s'il faudrait le situer dans le 20e siècle, puisque ça fait partie de ces projets de développement vraiment basé sur les grandes infrastructures qui sont à la fois des moyens, mais à la fois une vitrine. C'est-à-dire que tant pour le constructeur que pour l'État et la région, c'est une autoroute qui se veut exemplaire, c'est une autoroute vitrine dont il s'agit. Donc au niveau de la communication et au niveau de la réalité de ce que ça représente, c'est plutôt effectivement dans la lignée des années 50, dans la lignée développementiste et presque colonialiste, je dirais. C'est-à-dire que la Réunion, il faut pas oublier que c'est un territoire d'outre-mer qui pâtit de dérogations environnementales qu'on n'oserait pas du tout appliquer en France métropolitaine. C'est-à-dire que, comme le cas de la Martinique, dans laquelle vous pouvez balancer des pesticides pour ne pas citer la chlordécone, en faisant des dérogations au droit européen de l'environnement, bah la Réunion, c'est pareil. En fait, il y a une sorte de passe-droit qui est certainement lié en partie au statut de département d'outre-mer. Et puis surtout, à la présence de groupes d'influence locaux qui permettent ce genre d'exaction à la loi. Il y a aussi l'idée que finalement, on est dans un territoire qui importe l'ensemble de l'énergie qu'elle consomme et des denrées, des produits manufacturés qui sont consommés et qui en revanche sert de réservoir agricole et de destination touristique pour la métropole. Donc il y a ce rapport colonial qui est très fort et qui explique la situation.
Alors, il y a deux mots qui reviennent souvent dans le reportage, c'est intérêt général. Et c'est vrai, quand on parle de grands chantiers comme cela, c'est une vraie question. Est-ce que la construction de cette autoroute se justifie au nom de l'intérêt général? C'est une question que pose Jean-Pierre Marchaud, là, du collectif Non à la Nouvelle Route. Bon, lui, là, on se doute bien, vu son positionnement, de sa réponse. Mais vous, c'est un sujet dont vous débattez souvent dans votre collectif, cette notion d'intérêt général?
Alors, en fait, on a eu la chance d'avoir Julien Milanesi, qui est l'un des membres du collectif, qui est par ailleurs économiste et qui avait produit un film avant notre ouvrage qui s'appelait « L'intérêt général et moi », où en fait, il montrait très bien que l'intérêt général, finalement, c'est une vérité asymétrique, puisque en fait, selon le point de vue dont on se situe, elle a un tout autre sens. Donc, on n'a pas spécialement débattu de cette question-là. Par contre, c'est vrai que le conflit dans les mouvements d'opposition au grand projet inutile à imposer porte essentiellement sur cette notion d'intérêt général. C'est-à-dire que ce que l'État, ou en fait quand je dis l'État, c'est un peu vague, puisque par exemple le représentant, le porte-parole, comme on l'entend dans le reportage, du mouvement Non à la Nouvelle Route du Littoral est lui-même un élu. Donc en fait on a aussi des conflits entre les différentes échelles institutionnelles et puis au sein des différentes institutions, comme ici à la région, entre les différents élus qui portent des projets d'intérêt général qui diffèrent les uns des autres. Donc évidemment, de mon point de vue, ce n'est pas un projet d'intérêt général, c'est-à-dire qu'un projet qui exclut un tiers de la population ne peut pas être un projet d'intérêt général, et surtout si on situe l'intérêt général du point de vue de l'intergénérationnel, ça ne peut pas être un projet d'intérêt général, étant donné qu'il ne fait que renforcer la sixième extinction de biodiversité et aussi les risques liés au dérèglement climatique.
Mais en même temps, ce projet est présenté par la région comme exemplaire en termes d'impact sur l'environnement, justement en disant 5% des investissements et plus de 150 mesures pour limiter l'impact. C'est quand même inédit, apparemment. Enfin voilà, c'est la Réunion se gorge de cela. On peut quand même leur reconnaître cela. C'est qu'il y a un vrai effort. Il y a des chantiers où le sujet n'est même pas du tout mis dans le cahier des charges.
Non, en fait, quand on fait un projet, grand ou petit, il y a une étude d'impact environnemental qui est obligatoire. Ensuite, il y a un rapport de force qui se met automatiquement en place, puisque les associations à visée environnementale ont le droit de faire des recours quant à l'impact environnemental réel ou supposé des projets. Donc finalement, ce côté exemplaire du projet, alors peut-être que le pourcentage alloué, le pourcentage total du budget alloué au diagnostic environnemental et au dit respect des conditions sur site n'est pas réglementé par la loi, mais en tout cas, l'étude d'impact l'est. Et elle va dans le sens d'une protection des espèces, notamment des espèces menacées, comme la baleine à bosse que j'ai citée par devant. Donc effectivement, c'est peut-être un exemplaire que d'accorder cet obol de 5% du projet, mais déjà sur les 2,5 milliards d'euros, ça représente pas grand-chose, on parle de 80 millions, et en plus, je suis pas sûre, après il faudrait demander à des écologues, je suis pas sûre que l'impact soit nul. On pourrait se dire que de toute façon, chaque projet a un impact, mais dans ce cas-là, il aurait fallu avoir un projet alternatif afin de pouvoir évaluer les impacts de l'un et de l'autre.
Alors vous qui travaillez avec votre collectif sur la mobilisation, à La Réunion, on voit bien, il y a des opposants, mais il n'y a pas une opposition incroyable non plus à cette route. Enfin, je veux dire, les gens ne se sont pas mobilisés pour en faire une zone à défendre comme on a pu le voir ailleurs.
Non, effectivement, je pense que on voit une mobilisation beaucoup plus punchy, j'allais dire, du côté des Gilets jaunes, même si en termes de nombre de personnes impliquées, ce n'est pas non plus la majorité des Réunionnais qui sont dans cette mobilisation des Gilets jaunes. Alors effectivement, il n'y a pas de ZAD sur le lieu de La Réunion. Ça, c'est le modèle français. Dans les autres modèles de mobilisation dans les autres pays européens, il n'y a pas non plus de ZAD formalisé en tant que tel. La mobilisation se fait à travers l'engagement personnel, suivant des formes qui sont somme toute assez classiques. Donc ça va être des pétitions, des manifestations. Mais finalement, ce qui rend la chose intéressante, c'est le lien avec le réseau donc national, européen, international, qui finalement se nourrit de ces mobilisations locales. Donc même si au niveau local, en termes numéraires, peut-être que les gens dans cette situation ont autre chose à faire que de s'engager de manière massive, c'est vrai que ça n'occupe pas le devant de la scène publique à La Réunion, hein, ça y a pas doute, mais même en France, hein, je veux dire, Notre-Dame-des-Landes, même dans les hauts moments de son histoire, n'a pas occupé le centre du débat public en France.
Il y a eu des moments où c'était quand même fortement médiatisé.
Il y a eu des moments
dans les dîners, tout le monde disait t'es pour ou contre. À La Réunion, je suis pas sûre.
Bon, on savait. De quel bord j'étais, la question s'est jamais posée. Non, mais par exemple, si on prend le cas de Bure, finalement.
Donc, un centre d'enfouissement des déchets nucléaires.
C'est ça, un centre d'enfouissement des déchets nucléaires, où il y a eu récemment des inculpations, où il y a eu des heurts très violents. Ça n'occupe pas le devant de la scène. Pourtant, on parle d'un projet d'enfouissement prévu sur 140 000 ans.
Oui, parce qu'aujourd'hui, c'est un laboratoire.
C'est un laboratoire, mais c'est un laboratoire qui, en fait, a des conséquences sociales et environnementales dans un territoire qui est quand même pas très favorisé du point de vue socio-économique. Ça n'occupe pas le devant de la scène non plus. Aucune de ces luttes, finalement, en France, ne fait la centralité. Mais ce qui est intéressant, justement, c'est leur côté décentré, multisitué, et leur capacité à nourrir un flot de militantisme qui n'est pas nouveau. Hein. On réinvente pas la poudre du militantisme, mais en tout cas, qui donne un nouvel éclairage sur l'environnement et les conditions socio-économiques sur les territoires.
En tout cas, cette route, elle va se construire, elle se construit, elle sera terminée en 2021.
Bah, alors ça, c'est comme les budgets prévisionnels, hein. C'est les chantiers prévisionnels, on sait quand ça commence, on sait jamais quand ça finit. Donc effectivement, elle va se construire, mais peut-être qu'un jour, La Réunion aura la bonne heure de passer à un autre modèle.
Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Anaïta Grisoni, d'être passée dans C'est pas du vent. Je rappelle le titre de votre livre collectif, Résister aux grands projets inutiles et imposés. C'est publié aux éditions Textuelles. Merci à François Porcheron pour la réalisation de cette émission et à vous, évidemment, pour votre fidélité. N'oubliez pas, vous pouvez nous réécouter sur notre application Pure Radio ou sur le site internet de RFI, onglet émission. Prenez soin de vous et des vôtres. On se retrouve demain, même planète, même heure.